Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio et c'est l'heure d'Art Interview, une émission qui rencontre les artistes et les acteurs du monde culturel. Stéphane Dubreuil.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle Art Interview sur Art District Radio. Je suis avec Isabelle Dubois-Brinkmann, qui est conservatrice en chef, directrice des musées municipaux de Mulhouse, mais qui est surtout historienne d'art, spécialiste d'un moment de la peinture absolument exceptionnel, qui donne lieu à trois expositions merveilleuses à Dijon, à Besançon et à Colmar. Donc ces trois expositions qui ont pour thème la peinture germanique. Le titre est un peu mystérieux parce que je défie quiconque de me définir ce qu'est la peinture germanique, sauf vous Isabelle. Comment a commencé cette aventure, cette histoire des trois grandes expositions de peinture germanique?
Alors tout d'abord, merci de m'inviter. Je suis ravie de pouvoir parler de ce projet de recherche et puis de ces expositions. Alors effectivement, au début de ce projet de recherche, il y a l'idée de faire connaître et d'inventorier des peintures germaniques, là on pourra préciser le terme, qui se trouvent dans les collections françaises, c'est-à-dire dans les musées, mais aussi dans les églises ou dans des bâtiments publics, en général, qui sont vraiment passés en dessous des radars, c'est-à-dire ils sont pas connus, pas inventoriés, pas attribués. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un peu d'aller à la chasse au trésor, faire une collecte, et puis de faire connaître, en fait.
Mais surtout, il y a beaucoup de peintures dans des petites églises, même dans des mairies, qui sont totalement inconnues, non répertoriées, et que vous avez réussi à retrouver. Et souvent, vous le disiez à l'exposition, dans des états quelquefois un peu préoccupants.
Oui, alors tout à fait. En fait, le fait qu'il y ait vraiment des pépites dans des endroits un peu inconnus, et par exemple dans les églises, il y avait l'habitude autrefois que les fidèles ou les curés de passage laissent leurs œuvres. Et on se retrouve sur tout le territoire français avec des œuvres qui se trouvent en fait dans des endroits où ils ne sont pas mis en valeur parce que tout simplement on ne met pas un spot dessus, où ils sont dans des sacristies, ou des caves, des greniers, etc. Et alors ça, pour les musées, en général, il y a un inventaire qui est fait. Pour les œuvres qui sont ailleurs, en fait, l'inventaire n'est pas fait partout parce que c'est un travail qui est fait par des services qu'on appelle les services de l'inventaire et ils ne sont pas forcément passés partout. Ils n'ont pas forcément pu attribuer une œuvre, etc. Donc, ils ont fait une petite photo comme ça, c'est passé dans un dossier.
Voilà. Quelle trouvaille vous avez pu faire dans quel contexte? Des choses absolument exceptionnelles que personne ne connaissait?
Des choses exceptionnelles, il y en a eu plusieurs. Alors des trouvailles, ça a été parfois assez amusant en fait. On se trouve par exemple avec, alors je tiens à dire que c'est un projet de recherche que j'ai mené à l'Institut National d'Histoire de l'Art et j'ai eu un contrat de 4 ans en tant que pensionnaire pour faire ce projet, puis donc pour préparer ces expositions. Et l'INHA donnait la possibilité à moi et à ma collaboratrice qui s'appelle Aude Brio, et je tiens à la citer, qui est une jeune doctorante. Eh bien, nous avons été en fait dans toute la France en mission pour se rendre sur site. Et parfois, en fait, on est venu pour voir une œuvre. Je me rappelle par exemple à l'église de Markolsheim, on n'est pas très loin de Colmar en Alsace, on venait pour voir un Christ souffrant, on l'étudie et le prêtre nous dit « Écoutez, si ça vous intéresse là, à gauche, là on a aussi ça, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, peut-être que ça peut vous intéresser ». Et en fait, c'était une vraie découverte parce que, en fait, l'information sur la provenance était perdue. Le curé n'était pas là depuis longtemps. On ne savait pas ce que c'était pas classé, c'était pas connu par des monuments historiques. Hein. La commune l'a fait restaurer. Et puis, il est exposé actuellement au musée de Colmar. On a fait travailler un chercheur sur une attribution. Voilà. Et ça fait partie de ces découvertes qui sont un peu le sel du travail du chercheur.
C'est fascinant parce qu'on imagine quand on visite une église qu'on peut passer devant sans finalement le voir, sans même l'entrevoir. Ça, c'était une chose assez passionnante quand on a visité l'exposition. Qu'est-ce qu'une peinture germanique?
Alors oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est pas si facile que ça. Certains parlent davantage de peinture allemande ou d'art allemand, etc. Moi, je n'ai pas voulu retenir ce terme parce que, en fait, il est assez connoté pour quelqu'un du XXIe siècle. Allemand, ça correspond au territoire allemand d'aujourd'hui. Or, c'est pas le cas. Mais on travaille sur un territoire qui correspond, en fait, à ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire un territoire absolument gigantesque qui était un peu fluctuant, alors qui a été fondé, je dirais, en 962 et qui a existé jusqu'en 1806, donc à peu près 800 ans, et qui est vraiment de la mer Baltique jusqu'au milieu d'Italie, hein, voilà, et donc de l'Alsace jusqu'en Europe centrale, donc un territoire absolument gigantesque. Et nous, on a cerné, en fait, on s'est un peu focusé sur les parties germanophones. Ça inclut l'Allemagne, mais pas seulement. Ça inclut aussi, finalement, l'Alsace, qui était donc germanophone et qui est encore dialectophone, et mais aussi la Suisse du Nord, mais aussi l'Autriche, mais aussi des parties d'Europe centrale.
Oui, bah oui, parce que quand on voit la carte, on s'aperçoit même quasiment que une grande partie de la Belgique, même toute petite partie du nord de la France, sont dans ce Saint-Empire romain germanique. C'est une histoire qu'on a totalement oubliée, qui est pourtant un point extrêmement important de l'histoire de l'Europe. Alors, vous n'avez pas étudié les peintures germaniques jusqu'à la fin de l'Empire du Saint-Empire romain germanique. Quelles sont vos bandes chronologiques ?
Alors, les bandes chronologiques, en fait, on ne s'en est pas mise au début, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va prendre toute la peinture du Moyen-Âge. Il se trouve que les plus anciennes peintures germaniques qu'on a recensées sur le territoire français, elles datent des années 1370. C'est un ensemble de fragments qui proviennent d'un retable et qui sont conservés au Musée des Arts Décoratifs de Paris. C'est un ensemble qui faisait partie d'un très grand retable et on l'expose au Musée de Dijon. Voilà, donc c'est un peu notre première date chronologique. Après, jusqu'en 1550, peut-être parce qu'en fait là, on est dans une période où il y a un peu un basculement, c'est-à-dire pas seulement artistique, mais aussi sociétal.
Il y a trois expositions dans trois lieux différents, donc trois belles villes, trois grandes villes de culture et de musées extraordinaires. Quelles sont les trois particularités? Parce que chaque musée, chaque ville a un thème.
Et je voulais vraiment que finalement le public français ait accès et partage un peu cette découverte. En fait, pour beaucoup de gens qui me disent, mais en fait, on n'avait vraiment pas conscience que la peinture germanique c'était si riche, si intéressant. Voilà. Et j'ai voulu faire partager, je dois dire, mon enthousiasme, puis adresser en fait à trois musées de l'Est de la France, en l'occurrence en partant en fait des collections, de leurs propres collections. Voilà, je me sais pas, c'était pas un hasard, c'est-à-dire que ces trois musées, le musée Unterlinden de Colmar, le musée des Beaux-Arts de Dijon et le musée d'art et du temps de Besançon possèdent eux-mêmes en fait des collections importantes de peintures germaniques du Moyen-Âge et de la Renaissance. Évidemment, ils sont aussi partis de leurs propres fonds.
C'est aussi un retour sur l'histoire, parce que ces trois régions faisaient partie du Saint-Empire germanique.
Oui, effectivement, l'idée, c'est peut-être de commencer la visite en fait, par Dijon, où on présente un 15e siècle un peu large, donc de 1370 à l'année 1510. Ensuite, de continuer peut-être à Besançon, où on présente la Renaissance, donc 1550 environ. Et puis Colmar, alors ça, là, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est sur toute la période, mais sur un territoire plus restreint, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Rhin supérieur. C'est-à-dire en fait en gros l'Alsace et puis la bande la partie droite du Rhin en fait, hein. Donc on est à cheval sur le Rhin entre Allemagne et France et globalement du nord de Strasbourg jusqu'à Bâle.
On sait qu'à cette époque les gens voyageaient beaucoup, il y avait beaucoup d'échanges entre les Flandres, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, même la région parisienne. Est-ce que la peinture germanique a une particularité linguistique? Est-ce qu'au premier coup d'œil, quand on est un spécialiste, on sait que c'est une peinture germanique?
Sous ce même terme de germanique, eh bien, vous avez en fait des idiomes très différents, que vous soyez finalement dans la Hanse, la mer Baltique en haut, à Cologne, en Franconie, c'est-à-dire autour de Nuremberg, Bamberg. Ce sont vraiment des langages très différents. Qu'est-ce qui finalement distingue une peinture germanique d'une peinture d'un autre foyer en Europe, c'est moins normé. C'est un art qui est, d'ailleurs pour nos yeux un peu latins, qui peut parfois être un peu dérangeant, mais moi je trouve que en fait, c'est ce qui en fait tout l'intérêt. C'est-à-dire que c'est parfois ça part dans tous les sens, ça peut être grotesque, ça peut être complètement calé, les morphologies sont parfois improbables. Mais voilà, c'est ce qui, je trouve, rend la peinture germanique intéressante.
Oui, moi, quand j'ai vu tous les tableaux, parce que j'ai vu les trois expositions en deux jours, on voit beaucoup, beaucoup de choses. Quand on n'est pas un spécialiste, on est vite submergé d'abord par la beauté de ces œuvres qui sont, je dois dire, assez envoûtantes. Voilà, moi, j'aime la peinture flamande et on retrouve, c'est la même famille d'émotions pour moi, en tout cas. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans cette peinture germanique, c'est le goût du grotesque, le goût de la caricature. Beaucoup un humour noir, j'allais dire. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous voyez aussi ça dans cette peinture?
Oui, tout à fait. Alors après, pour parler d'humour, c'est toujours très compliqué parce que finalement, on a tendance à projeter notre vision du XXIe siècle. Et moi, je suis comme vous, c'est-à-dire que ce qui m'amuse aussi, c'est les petits détails un peu croustillants. Voilà, vous avez des bourreaux absolument improbables et qui, avec une grosse charge. Mais ça, c'est aussi une lecture, évidemment, du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que pour un homme ou une femme du Moyen-Âge, en fait, on met en relation ce qui est beau et ce qui est bon, c'est-à-dire que la bonté de l'âme se reflète dans le corps, et donc quand vous êtes vraiment vilain, comme un bourreau, eh bien, ça se voit à l'extérieur. C'est-à-dire que vraiment, la personne qui est laide, c'est que finalement, elle a une mauvaise âme. Ça va aller un peu, voir les crémants d'années. Et alors, on fait une charge qui, encore une fois, moi, j'aimerais penser effectivement que les artistes se sont bien amusés en peignant ça, mais parfois, vous en avez qui sont quand même très, très typés. C'est-à-dire que vous avez des verrues, vous avez des plaies qui saignent, vous avez des pansements partout. Et puis, en fait, les bourreaux, en général, ils ont des nez crochus, ils ont un œil torve, ils sont mal habillés, quoi. Ils ont un pied nu, ils ont des pantalons déchirés, tout ça. Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est... On aime le grotesque, on aime aussi les couleurs très, très vives, très contrastées, voire peu, même aujourd'hui, pour un œil, assez choquant. C'est vraiment pas forcément des palettes qui sont dans la mesure, hein. On y va l'intensité de la couleur, de la palette, et voilà, c'est ça, on ose dans la peinture germanique.
Alors, est-ce qu'il y a des thèmes iconographiques qui sont propres à la peinture germanique? Parce que, bon, même si la fin de la période, c'est l'affirmation de la réforme, et dans ces régions, la réforme va être très, très puissante. Mais en tout cas, donc, pendant grande partie de la période que vous avez choisi, tout cet ensemble géographique est un ensemble catholique, donc qui est commun à la France, à l'Italie, à beaucoup, beaucoup de pays. Est-ce qu'il y a une iconographie particulière de la peinture germanique, des thèmes qui leur sont propres?
Alors, je dirais globalement non. C'est-à-dire qu'effectivement, dans toute l'Europe, hein, et donc jusqu'aux années 1520, jusqu'à l'affirmation de la réforme, il y a avant tout des commandes de peinture religieuse. Ça s'explique évidemment par la place très importante de la religion dans la vie de tous. Hein, voilà. On se rappelle qu'au Moyen-Âge, personne n'est véritablement athée, quelle que soit sa croyance, mais finalement, on ne se présente pas comme on est. On ne peut pas être athée, on ne peut pas se présenter comme athée. Et donc, finalement, la religion s'impose à tous et que les églises étaient remplies d'œuvres d'art vraiment à ras-bord. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui l'importance de l'image dans finalement la mentalité d'un fidèle du Moyen-Âge. Hein. C'est-à-dire qu'on représente avant tout la vie de la Vierge Marie, de l'enfant Jésus, et puis progressivement de plus en plus des saints. Et là, évidemment, il y a une spécificité parce qu'on s'intéresse avant tout aux saints locaux. Hein. C'est comme ça parfois d'ailleurs qu'on peut attribuer des œuvres, parce qu'on se dit, Saint Corbinien est plutôt vénéré en Bavière. Donc, voilà. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas de spécificité. Ce qui a comme spécificité, c'est peut-être plutôt sur la forme, parce que si on ne trouve pas, par exemple, en Italie, c'est la présence de retables à volets mobiles. Vous avez un décor qui est constitué en fait d'une caisse, quelque chose d'assez monumental, hein, sur lequel se referment deux voire quatre volets qui sont normalement fermés et qui sont en fait un sur les deux faces. C'est-à-dire que donc en temps normal, ce retable donc est fermé, vous voyez des scènes, et puis lors des grandes fêtes carillonnées, là Noël, Pâques ou la fête du Saint Patron, et bien on ouvre, et alors à l'intérieur vous avez sur l'autre face des volets, sur la volet intérieur, vous avez d'autres peintures, et à l'intérieur au centre, dans la caisse, ce qu'on appelle la caisse, donc Vous avez très souvent des sculptures, voilà. Et donc tout ça, en fait, raconte des histoires. Et le fait que, eh bien, il y a cette multiplication des volets, parfois, donc encore une fois, deux paires de volets, eh bien, ça entraîne aussi une multiplication des scènes. Ces politiques à volet mobile, ça, c'est un peu une spécificité, pas seulement de l'ère germanique, mais en tout cas du nord de l'Europe.
Oui, c'est plus la mise en scène que ce qu'on met en scène qui est particulier, en fait.
Tout à fait.
Donc, dans toutes ces trois expositions, on a quasiment que des chefs-d'œuvre, que des choses merveilleuses. Il y a beaucoup d'ateliers, donc des peintures quasiment anonymes. On peut juste les dater de tel atelier ou de tel maître, mais dont on ne connaît pas le nom. Il y a beaucoup de peintres qui sont identifiés, mais évidemment, il y en a trois qui surgissent encore plus que d'habitude, même si on les connaît bien. C'est Dürer, Cranach et Schongauer. Trois génies, trois grands artistes de cette époque. Dürer, il est à Besançon, Cranach aussi d'ailleurs, et Schongauer, il est à Colmar, si je me rappelle bien.
Alors, Schongauer, c'est un artiste qui est à la fois très important pour cette partie de ce qu'on appelle le Rhin supérieur, c'est-à-dire qu'il a fait sa carrière à Colmar. On est dans les années 1470-1490. Donc c'était vraiment le peintre principal, un excellent peintre. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que, alors d'une part, on connaît son nom, comme vous avez dit, c'est très rare en fait qu'on connaisse le nom des artistes du XVe siècle, parce que l'habitude était qu'on ne signait pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas en fait conscience de l'auteur, comme on peut l'avoir aujourd'hui chez un artiste. Hein. On connaît son nom, donc c'est un peintre important, on connaît son nom, mais en fait, ce pourquoi peut-être il est le plus important, c'est-à-dire que c'est le premier très grand graveur de l'ère germanique. Il est très 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 doué en tant que graveur, mais surtout en fait ses œuvres, ses gravures en fait vont connaître des tirages importants et en fait elles vont être diffusées dans l'Europe entière. Et beaucoup 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 d'artistes à partir des années 1490 jusque vraiment tard dans le 16e siècle vont utiliser ces compositions et vont faire pratique du copier-coller. C'est-à-dire que c'était pratique en fait. Vous aviez ça, on vous demande une nativité, ben vous prenez une gravure de Schongauer et puis vous avez une position prête à l'emploi. Et le rayonnement de Schongauer est vraiment quelque chose de spectaculaire. Voilà. Donc c'est un artiste important en lui-même et puis grâce à son rayonnement, grâce à ses gravures. Le deuxième, Dürer. Alors évidemment, Dürer, il a toujours éclipsé tout le monde. C'est quelqu'un dont la renommée n'a jamais cessé. C'est assez rare parce que finalement, la plupart des artistes ont connu une éclipse après leur mort. Lui n'a pas connu d'éclipse parce que c'est un artiste absolument génial, un génie absolu, mais c'est aussi parce que c'est un artiste très complet. Un artiste qui se rend en Italie à plusieurs reprises et puis surtout qui s'exprime beaucoup. On a beaucoup de lettres de lui, une correspondance. Il a fait un voyage, il s'est rendu aux Pays-Bas pendant 2 ans, il a fait une relation de voyage et puis il a fait des traités, etc. Donc c'est quelqu'un qui s'exprime et du coup évidemment on peut aussi mieux cerner la personnalité de Dürer. Et puis effectivement, il a aussi une grande œuvre avec un atelier aussi. Hein, personne ne travaillait tout seul. Hein, en général, les maîtres travaillaient dans un atelier, donc il était entouré de beaucoup de collaborateurs. Et donc son œuvre et son œuvre collective vraiment est importante. Alors en France, en fait, on a donc de très nombreuses œuvres, mais nous on ne s'intéresse pas au dessin et on ne s'intéresse pas en tout cas. On ne s'intéresse pas. Je veux dire, dans ce projet de recherche, hein, on répertorie les peintures. C'est-à-dire qu'on a exclu tout ce qui était les œuvres sur papier. Donc, cela, on ne les prend pas en compte. Et si on s'intéresse seulement aux peintures, eh bien, nous n'avons en France que 6. Alors, des peintures sur bois ou sur toile. Donc, à Besançon, eh bien, on en présente 3. Hein, 3 trois peintures sur toile qu'on appelle des Duchline. Voilà. Donc, je vous invite à aller à Besançon pour les voir. Et puis, le troisième, Cranach. Alors, vous êtes de Besançon, on lui a consacré une salle entière parce qu'on a construit l'exposition de Besançon autour des 5 tableaux de Cranach qui sont déjà présents dans les collections de Besançon. Alors après, Cranach, il est très connu aussi parce que c'est quelqu'un qui était à la tête d'un atelier qui a fait une production, on pourrait qualifier de quasi-industrielle. Il a beaucoup, 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 beaucoup produit avec une modalité en fait, de production qui est assez particulière, qu'il a inventée, en fait, mise au point. C'est-à-dire qu'en fait, il crée des prototypes que son atelier, ses collaborateurs pouvaient multiplier, mais à 30, 40, 50 exemplaires. C'est vraiment ce qui s'est en fait l'intérêt, et ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup de Cranach. Hein. Voilà, il y a beaucoup de Cranach, donc pas seulement en France, mais finalement dans toutes les collections dans le monde. Et on a pu donc lui consacrer une salle entière. Et ça montre aussi cette salle, ça montre aussi les différents aspects de son œuvre qui sont très intéressants. Il y a des portraits, il y a de la peinture religieuse, il y a des scènes mythologiques, des scènes allégoriques, et puis vraiment des chefs-d'œuvre absolus, et notamment un magnifique tableau du musée de Colmar qui s'appelle La Mélancolie et qui est un chef d'œuvre absolu.
Oui, même chez Cranach, ce qu'on trouve pas ailleurs, il y a même une forme d'érotisme léger parce qu'on est quand même au XVIe siècle. Voilà, ça aussi, c'est étonnant, ça tranche avec tout le reste de la peinture extrêmement religieuse. Même si à Besançon, il y a aussi de la peinture profane, parce qu'il y a du portrait, il y a des portraits des marchands notamment qui sont absolument somptueux. Et chez Cranach, il y a aussi ce côté érotique qu'on ne trouve que chez lui, en fait.
Oui, tout à fait. Lui, en fait, j'ai l'impression que, pour parler un peu crûment, il surfait un peu sur la tendance, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est dit, voilà, il y a un nouveau marché. Le marché de la peinture religieuse s'effondre à cause de la réforme qui, en fait, bannit l'image religieuse. Et lui, il va trouver un nouveau créneau. Et ce sera effectivement ces sujets mythologiques, allégoriques, comme le suicide de Lucrèce ou la nymphe à la source ou les trois grâces. Voilà, ça pour citer quelques-uns des tableaux qu'on présente à Besançon. Ou alors le couple mal assorti. Et là, on parlait d'humour tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. C'est des tableaux, hein, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une jolie jeune femme avec un homme absolument, un vieillard libidineux à côté qui tente d'intéresser. Et la petite coquette nous fait un regard où carrément va piocher dans la besace du monsieur pour lui soudrer de l'argent. Donc tout ça, c'est des sujets qu'il met au point et puis qui va se multiplier parce que, comme je le disais, il n'hésite pas à répondre à la demande simplement en multipliant à loisir ce type de nouveaux sujets. Et effectivement, comme vous dites, c'est quelque chose qui est très étonnant, c'est cet érotisme. Alors vraiment, on passe vraiment d'une sphère à l'autre, c'est-à-dire que les mêmes peintres pouvaient répondre à des clients catholiques qui voulaient des crucifixions parfois un peu austères, et puis à côté de ça, des jeunes femmes complètement dénudées avec simplement un chapeau sur la tête et puis un voile qui ne masque rien et des courbes très très sensuelles.
Pour revenir sur l'iconographie à Besançon, là, ça, je crois que c'est que dans cette exposition, il y a donc la peinture, moi je qualifie de profane, qui sont des peintures privées, qui sont des portraits, qui sont des portraits de famille, qui sont des portraits aussi dans lesquels les marchands vont exhiber entre guillemets leur richesse et leur réussite. Bon, ça se répand un peu dans toute l'Europe parce que économiquement, les marchands et les grands bourgeois commencent à prendre de plus en plus de place. Est-ce que dans la peinture germanique, ces tableaux ont une place particulière ?
Oui, c'est quelque chose de très important parce que effectivement, c'est ça. Ça correspond, comme vous l'avez dit, hein, à l'essor de la bourgeoisie. Alors, bourgeoisie, pas au sens marxiste, hein, on se rappelle de ça. C'est-à-dire que bourgeoisie, à l'époque, c'est vraiment le citoyen, en fait. Hein. Il y a l'essor d'une bourgeoisie qui s'enrichit, hein, qui veut aussi montrer son statut social, son opulence, sa richesse. Et effectivement, le portrait sera utilisé pour ça. Sera utilisé pour montrer son statut social grâce à son costume, hein, qui est souvent très riche. On porte des costumes qui sont dans des matériaux que tout le monde ne peut pas s'offrir, hein, que de la fourrure, vous avez des pourpoints en soie, vous avez des chamars en velours, enfin, vous avez vraiment des matériaux très précieux. Donc, alors, évidemment, ça permet d'afficher son statut social, sa richesse. Quelqu'un, quand vous êtes arrivé à la tête de votre entreprise, eh bien vous souhaitez le montrer. Et ça montre aussi sa famille, c'est-à-dire qu'il y a aussi une question de continuité, de lignée. Hein. Eh bien, on montre ses enfants. Les enfants, parfois vous avez des portraits d'époux, c'est-à-dire vous avez à la fois en pendant l'époux et l'épouse, et puis à côté et en dessous, hiérarchiquement d'ailleurs, eh bien vous avez les enfants, alors la lignée mâle avec le père, et puis la lignée fille avec la mère, et ça permet voilà, d'exhiber sa famille avec aussi une dimension qui reste parfois un peu religieuse, c'est-à-dire que quand on montre ça dans un contexte religieux, c'était aussi l'incitation à aussi prier pour nous après notre mort. Voilà, c'est ça. côté mémoriel, hein, dans un contexte parfois funéraire, et puis il y a un côté aussi d'exhibition, d'ostentation.
Alors, avant de parler des attributions, parce qu'il y a deux nouvelles attributions dans tout le parcours, je voulais évoquer avec vous une expérience que vous avez faite à Dijon, parce que donc, même si c'est une peinture qui sort du Moyen-Âge, qui va vraiment vers la Renaissance, il y a encore des peintures à fond d'or, il y a encore beaucoup de dorures dans les peintures, et pour la première fois, vous avez mis ces peintures en scène comme elles l'étaient à l'époque, c'est-à-dire avec l'éclairage des bougies, ce qu'on a totalement oublié. Et je trouve que cette petite pièce dans laquelle on voit une peinture avec les bougies, elle prend une autre dimension, parce qu'on se rend compte de l'intérêt et de l'utilité de ces peintures à fond d'or.
Tout à fait, tout à fait. Alors là, je tiens, et je fais une parenthèse, mais je tiens à préciser que c'est une idée de la co-commissaire de cette exposition à Dijon, et je ne l'ai pas dit, mais toutes ces expositions, évidemment, je ne les ai pas faites seules, et avant tout, ce sont des... Alors, c'est une co-construction, pour le synopsis, hein, scientifiquement, c'est une co-construction, mais ce sont vraiment des travaux qui ont été mis en œuvre par ces trois musées et par les conservatrices de chacun de ces trois musées. Et là, l'idée a été vraiment conçue et mise en œuvre par un collègue du musée de Dijon, que je souhaite citer, Lola Fombertas, qui est conservatrice en charge du Moyen-Âge au Musée Beaux-Arts de Dijon. Et effectivement, c'est une excellente idée. Elle a pris en fait un très grand volet de retable avec un fond d'or, et elle a tenté effectivement de reconstituer finalement les conditions de vision de ces œuvres dans une église au Moyen-Âge. Et ça permet de rappeler que quand on les voit dans un musée sous un spot lumineux avec éclairage constant, eh bien on passe à côté en fait de l'aspect très très mouvant de cet éclairage dans une église où effectivement donc il n'y a pas d'éclairage artificiel. On s'en rappelle le soir et puis l'hiver il n'y a pas de lumière du jour, très peu, et donc on éclairait à la chandelle, on éclairait donc avec des bougies dont la lumière est fluctuante. Hein, voilà. Alors, à la fois, on ne voit pas très bien, il faut se rapprocher pour bien voir, d'où l'importance aussi de mettre des petits détails qu'on voit vraiment de très près. Et puis aussi, ça fait vibrer les fronts d'or, hein, et ça donne vraiment un aspect très... c'est finalement très dynamique, hein, assez fond d'or.
Oui, c'est une expérience de visite qui est tout à fait, totalement nouvelle, totalement neuve. Donc, dans cette masse de peinture, donc de peinture sur toile, de retables, de peinture sur bois, de petites, de grandes peintures, il y a deux nouvelles qui ont été annoncées à la fin des visites. Ces deux nouvelles peintures qui ont été soit réattribuées, soit attribuées, ce qui n'est pas une chose forcément très, très courante dans les expositions, même si j'imagine ça doit arriver très souvent dans les laboratoires et dans les centres de recherche. Mais là, deux nouvelles attributions. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire quels sont les tableaux et à qui ils ont été attribués?
Alors, effectivement, des attributions, il y en a eu beaucoup, hein, parce que c'est vrai que finalement, comme je vous disais, ces peintures germaniques, elles n'ont pas été étudiées. Aussi parce que finalement en France il y a très très peu de spécialistes de ce domaine. Il y a un travail d'attribution qui a été fait et ça je tiens aussi à le dire, c'est que on s'est appuyé sur l'expertise d'un comité scientifique qui était composé de 8 spécialistes, des conservateurs et des universitaires allemands, autrichiens, suisses et puis un français. Et dans le catalogue, parce qu'il y a un catalogue qui est commun aux trois expositions, à peu près la quasi-totalité d'œuvres exposées fait l'objet d'une notice, et ces notices, en fait, on les a distribuées à chaque fois aux meilleurs spécialistes de l'artiste. Voilà. Donc des réattributions, en fait, il y en a eu énormément. Et si effectivement on a mis en exergue les deux dont vous parlez, c'est que eh bien elles sortent un petit peu de l'eau, parce que encore une fois on connaît ces noms de Schönauer et de Dürer. Alors les deux tableaux sont d'ailleurs exposés au musée de Colmar. Ces deux volets de retables de Martin Schönauer, ils étaient au musée de Colmar, mais en fait ils étaient en très mauvais état. Ils étaient dans le fin fond de la réserve et pour des raisons peut-être budgétaires, ils n'avaient pas été restaurés ni étudiés. Eh bien le musée de Colmar a lancé les travaux de restauration, et ça a permis vraiment de les étudier sous un nouveau jour. et l'ancienne conservatrice du musée de Colmar, Pampita de Pape, eh bien, a proposé en fait, d'attribuer ces deux retables qui étaient considérés comme l'ouvrage ou l'atelier ou je ne sais plus, voilà, de Martin Schongauer. Elle a proposé de les attribuer à Martin Schongauer lui-même. Et puis l'autre, c'est un tableau. Alors, je veux dire que c'était vraiment une des plus grandes de fierté. C'est une petite crucifixion sur bois qu'on a trouvée dans un petit musée. Une petite ville qui est en Picardie, qui s'appelle L'Affaire. On n'est pas très très loin de Soissons. C'est un musée qui est très important, un peu disproportionné par rapport à la taille de la ville. Une collection privée qui a été donnée à cette ville au XIXe siècle. On avait pris rendez-vous pour voir un certain nombre de tableaux germaniques. Donc, on les regarde un petit peu l'un après l'autre. Le responsable du musée nous apporte des petites crucifixions. Voilà, donc le Christ au centre, la Vierge à gauche et puis Saint Jean à droite. J'ai fait cette mission dans le Hauts-de-France avec donc ma collaboratrice Aude Briot, l'un des membres du comité scientifique qui est conservateur au musée de Colmar, le Bodo Brinkmann. Et en fait, alors il se trouve que c'est mon mari, mais voilà, c'était pas du tout en tant que je lui demandais de venir, plutôt en tant que spécialiste de peinture germanique. Et c'est vraiment instantané. Il m'a dit mais il me semble que ça peut être Albrecht Dürer. Et là, on était très surprise parce que ça ne correspond pas à ce qu'on connaît Dürer. Et on lui a confié la notice. Et en fait, c'est assez probant. En fait, c'est assez plausible ce qu'il avance. C'est-à-dire que pour lui, il s'agirait en fait d'un tableau que Dürer aurait pu peindre pendant son voyage de compagnonnage. Alors, le voyage de compagnonnage, c'est-à-dire que l'artiste, il commence par se former en général chez son père ou chez son oncle ou quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche. Quand il a acquis en fait une certaine expérience, il part parce que l'idée, c'est de voir d'autres pratiques, d'autres pays, d'autres visions. Et donc, il se lance dans un voyage de compagnon qui peut le mener parfois d'ailleurs assez loin. Et on sait que Dürer s'est rendu à Colmar pour rencontrer Schongauer et que Schongauer était mort. Donc, il va pousser un peu plus loin, il va pousser vers Bâle, et on sait qu'il est à Bâle dans les années 1490, 92, 93. Et il se trouve qu'en bas de cette crucifixion, vous avez le donateur, qui est en fait l'évêque de Bâle à l'époque, qui s'appelle Caspar zu Rhein. On reconnaît tout simplement grâce à ses armoiries. Eh bien, en comparant en fait le style de ces figures, notamment de Saint-Jean, avec des dessins de Dürer de ces années-là, qui sont attestés de la main de Dürer, et notamment un dessin qui se trouve au musée de Louvre, eh bien, c'est effectivement assez probant. C'est-à-dire qu'on se dit, bingo, effectivement, il se trouve sans doute, et ça c'est évidemment encore une hypothèse, hein, mais pour moi je trouve ça très... je suis assez convaincu que ça peut être une bonne piste. Il pourrait s'agir effectivement d'un septième. En fait, il s'agirait d'un septième peinture de Dürer dans les collections françaises qui aurait été découverte dans ce tout petit musée de l'affaire.
Alors, qu'est-ce qu'on ressent comme ça quand on est devant un tableau et que ce tableau, par la magie des connaissances des spécialistes, devient un tableau de Dürer? J'imagine qu'on doit être ému, bouleversé, ça doit être quelque chose.
Oui, tout à fait. C'est vrai que alors on l'avait d'autant moins vu venir que c'est un tableau qui n'était pas en bon état. C'est-à-dire que je pense qu'à l'époque baroque, il devait y avoir quelques lacunes. On n'a pas hésité en fait à badigeonner le fond avec de la bronzine et puis on a rajouté quelques arbustes. Donc il était un baroquisé, pour prendre un néologisme. Et du coup, ça saute forcément aux yeux. Et c'est là où, effectivement, il faut vraiment avoir l'œil d'un spécialiste pour se rendre compte. Et après, quand vous recommencez à regarder l'œil et à regarder en fait de près, vous voyez que le torse est magnifiquement peint et qu'il y a une attention dans le rendu du modèle des genoux et que le faciès, on voit bien que c'est vraiment le faciès d'un homme qui est en train de mourir. Enfin, voilà. Vous avez une qualité dans la représentation d'un corps, d'un supplicié. Vous dites, ça, c'est comme un grand artiste, quoi. Je crois que l'intelligence artificielle ne remplacera pas un bon historien de l'art.
Ça, c'est sûr. Ça peut aider, mais ça ne remplacera pas complètement la culture et surtout aussi l'intuition, quoi.
Voilà, tout à fait.
On a presque fini. On s'est pas tout dit sur toutes ces expos parce qu'il faut y aller. Mais avant de nous quitter, j'ai juste une question peut-être un peu plus personnelle. C'est pourquoi vous aimez autant cette peinture?
C'est un peu difficile de dire, c'est beaucoup de choses. Mais bon, d'une part, il se trouve que je m'intéresse à la peinture germanique vraiment depuis longtemps, depuis que j'ai commencé l'école du Louvre, parce que je m'intéresse avant tout à la culture allemande. Et je trouve qu'en France, il y a encore beaucoup de clichés sur la culture allemande et ça va vraiment au-delà de l'art. Hein. Moi, je trouve qu'on connaît très mal la littérature, la musique allemande, etc. Il y a vraiment des trésors absolus. Et que peut-être parce qu'on nous repasse tout le temps des films sur la Seconde Guerre mondiale, on est un peu resté coincé sur la période nazie. Et je trouve que vraiment, il y a une richesse dans la culture allemande qu'on connaît très peu en France. Et voilà, c'est un peu l'idée de se dire il faut mettre en valeur, en fait, la culture de nos voisins. Peut-être aussi parce que moi, j'aime, c'est un peu pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, la peinture italienne est trop parfaite. Comme de la même manière que j'aime bien les gens imparfaits, j'aime bien la peinture germanique, ses côtés un peu décalés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'attend pas, c'est savoureux, c'est drôle, c'est émouvant, ça rentre pas dans des cases. C'est inconnu et puis c'est intéressant. Donc voilà, c'est aussi pour ça que à la fois je m'y intéresse et puis j'ai à cœur de faire connaître cette peinture.
Mais Isabelle, je vous remercie beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi pour me parler de votre passion pour la peinture germanique et aussi de tous ces merveilleux artistes, toutes ces merveilleuses œuvres qu'on retrouve donc dans ces trois musées, Besançon, Dijon et Colmar. J'ajoute qu'il y a un superbe catalogue, vraiment très épais, très gros, mais très, très complet et parfait pour une fois qu'on a visité ces trois expositions. Sur le site de la radio, je vais mettre évidemment tous les renseignements nécessaires pour s'y rendre avec les dates. Je crois que tout ça finit le 23 septembre, donc il y a encore tout l'été pour s'y rendre. Voilà, je vous remercie
beaucoup. Merci à vous, merci.
Et à bientôt, peut-être pour une prochaine exposition sur des nouvelles peintures germaniques.
Avec grand plaisir.